Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, ainsi que vous qui nous rejoignez depuis Zoom, soyez les bienvenus, c'est vraiment avec grande joie que personnellement je vous retrouve dans la maison du Seigneur, et je suis content de voir Rachel, comment ça va? Et Tanti, ça fait super longtemps qu'on ne vous a pas vu, hein, et donc ça fait plaisir de pouvoir vous voir et... De voir cette église un peu plus familière maintenant, hein, encore, donc avec tous ceux qui nous accompagnent. Et c'est vraiment, personnellement, après ce temps de repos, de vacances, que je vous accueille. Et c'est à chaque fois que je voudrais vous dire bienvenue encore, et ceux qui nous visitent aussi, bienvenue. Vous êtes ici chez vous, hein, nous sommes dans la maison du Seigneur. Alors, la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, au nom de Dieu, ben. Il est parmi nous et nous croyons en sa présence. Ok ? Je vois vos sourires dans vos yeux. Hein, c'est magnifique. Et particulièrement ce matin, et pour ce temps de reprise aussi, j'aimerais vous inviter tout simplement à avoir cette disposition à la louange. Et avec Anaël, hier en répétition, nous avons pris l'exemple de Josué. Dans le livre de Josué, en fait, la chute du mur de Jéricho, mais aussi, en fait, dans un chronique aussi, avec le roi Josaphat, en fait, si je ne me trompe pas, le roi Josaphat, qui a rencontré aussi la victoire. Mais de quelle manière ont-ils rencontré la victoire? Eh bien, tout simplement dans la louange. Et si vous vous rappelez bien, dans Josué 6, qui parle de la chute du mur de Jéricho, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant environ 7 jours? Vous vous rappelez? Voilà, ils ont tourné, mais ils n'ont pas tourné simplement comme ça. Voilà, ils ont tourné avec des rythmes, avec autour de cette muraille. Et finalement, cette muraille s'est effondrée. Et ils ont pu avoir la victoire. Et pareil pour Josaphat, qui était dans le doute, qui avait peur, hein, qui avait ces peuples qui allaient se lever contre lui, et il ne savait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est tourné vers le Seigneur, il a jeûné. Et le Seigneur lui a dit, ben, je te donnerai la victoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont loué. Ils ont simplement loué. Et il y a eu des Lévites, et ils ont pris des musiciens, qu'ils ont ornés de bijoux, voilà, et ils ont commencé à louer. Tout ça pour vous dire que parfois nous aurons certainement des défis à relever et que dans notre vie, et peut-être que ces défis vont paraître un peu tellement grands pour nous, on va dire, mais comment faire comme l'a fait Josaphat, en fait, hein, le roi. Il ne savait pas quoi faire. Et cela, en fait, va être comme cette muraille, en fait. Cela est comme une muraille, c'est... On ne sait pas quoi faire. Elle est devant nous et on ne sait pas faire. Et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre muraille. Ça peut être une lutte contre le cancer, lutte contre le chômage et autre chose, situation familiale compliquée, etc. Mais je vais vous inviter, et comme Josué l'a fait, à vous lever de bon matin et de tout simplement louer Dieu. Je ne sais pas si on vous a déjà posé la question, mais pourquoi vous louez Dieu ? Pourquoi à chaque fois je te vois, tu es en train de louer Dieu? Pourquoi tu as tout le temps le sourire comme ça, tu loues Dieu? Parce qu'on vous a demandé ça. Hein? Et bien, on pouvait même demander, mais pourquoi Stéphane arrive à tous les dimanches à louer, à avoir cette énergie pour... Ça ne veut pas dire que je loue Dieu parce que tout va bien, hein, dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je suis là et que tout va bien. Mais je sais qu'à chaque fois que je loue Dieu, j'ai la victoire. Et à chaque fois que vous allez louer Dieu, vous allez avoir la victoire. Et c'est cette victoire que vous devez saisir. Alors, on n'en loue pas Dieu parce que c'est tout le temps le happy end dans notre vie. Hein, en fait, ce n'est pas ça. Mais on loue Dieu parce qu'on sait qu'il est avec nous. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. On apprend ça à nos enfants petits à l'école du dimanche. Mais comme il faut que notre muraille tombe, que ces murailles tombent, et la seule manière que la muraille est tombée, c'est dans la louange. C'est dans la louange. Alors, pour cette saison qui nous attend, nous connaissons notre condition sanitaire aujourd'hui. Et en plus, se rajoutent les petites choses intérieures, extérieures encore. Et intérieures, ce qui va se passer en l'intérieur de nous. Mais je veux vous inviter, mes frères et sœurs, amis visiteurs, à prendre conscience que c'est par la louange que nous allons avoir cette victoire. Nous louons Dieu. Nous louons Dieu parce que notre Dieu, il est fidèle. Parce qu'il ne va jamais nous abandonner. Il ne nous a jamais promis que tout serait facile, mais il nous a promis qu'il sera toujours là avec nous. Et il nous l'a montré à travers qui ? Mais vous hésitez à le dire. Voilà, ne me dites pas que c'est les masques qui vous gênent, c'est pas vrai. C'est à travers Jésus. Il nous l'a montré. Dieu a eu compassion de nous qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est vrai. Jésus a marché comme nous. Il a pleuré avec nous. Il a eu compassion de nous. Il nous a soignés. Il a guéri les malades. Il a même réveillé des morts. Tout ça pour montrer la gloire de Dieu. Tout ça pour montrer que Dieu, n'importe quelle circonstance, il sera avec nous. Dieu a compassion de nous, Dieu prend soin de nous, Dieu prend soin de toi. Et tu peux dire à ton voisin, Dieu prend soin de toi, alors loue Dieu. Anaël, Dieu prend soin de toi, alors loue Dieu. Teddy, Dieu prend soin de toi, alors loue Dieu. Les masques n'empêchent pas l'échange quand même, hein? Attention. Émile et Monique, je vous vois. Hein? Voilà, et notre sœur Tina, je sais que tu es toute seule, mais tu peux le dire aussi, tu peux le proclamer. Hein? Manuela aussi, hein? Vous pouvez le proclamer. Et je vous fais cette invitation. Si vous voulez, tenez-vous debout, s'il vous plaît, nous allons prendre ce chant qui dit « Viens, ne tarde plus ». Mais est ce cœur disposé à adorer Dieu? Seigneur, tu es notre trésor. Tu es ce que nous avons de plus cher au monde. Pour nous, Seigneur, tu t'es donné. Pour nous, Seigneur, tu as donné Jésus-Christ. Tu nous as fait remporter la victoire, Seigneur, dans de nombreuses situations, éternel Dieu. Et dans ces défis à venir, nous voulons ne pas douter de ta puissance, de ta toute-puissance. Non seulement tu es le Dieu qui fait ce qu'il veut, mais tu es le Dieu aussi qui fait éclater sa gloire. Alors Seigneur, en cette nouvelle saison que nous vivons, cette vie d'église, Seigneur, nous voulons que chacun aussi puisse affronter chaque situation de leur vie, Seigneur, par la louange, Seigneur. Te louer pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans nos vies, éternel Dieu. Alors Seigneur, donne-nous ce cœur vraiment disposé à t'adorer. Donne-nous ce cœur disposé à te célébrer, à te remercier, éternel Dieu. Donne-nous ce cœur disposé simplement à t'aimer, Seigneur. Fais du bien à chacun de nos frères et sœurs. Fais du bien à notre Église. Fais du bien à notre France, éternel Dieu. Et nous savons, Seigneur, que nous qui sommes là, si nous te sommes fidèles, Seigneur, toi aussi tu demeures fidèle. Alors donne-nous encore à rester, Seigneur, dans tes voies. C'est tout ce que nous voulons, Seigneur, et à te louer, Seigneur, à t'élever. Je t'ai prié, Seigneur, dans le seul bon nom de Jésus.
Viens, ne tarde plus à adorer.
Oh, viens.
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
Viens,
tel que tu es. tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira.
Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus à t'adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens,
ne tarde plus.
Que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens,
ne tarde plus à t'adorer.
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
Viens.
Et vous savez que notre Dieu est toujours prêt à nous accueillir. À nous accueillir lorsque nous nous tournons vers lui. Lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons. Il a toujours ses bras grands ouverts. Et je me rappelle toujours de cette scène avec le fils prodigue qui avait tout préparé un discours pour dire qu'il demanderait pardon et qu'il demanderait « Père, je veux devenir comme un serviteur devant toi. » Mais son père, quand il a vu au loin, il n'a même pas laissé le temps de parler, mais il a accueilli les bras grands ouverts. Il lui a redonné sa place. Et notre Dieu est pareil. Il est ce Père qui est toujours prêt à nous accueillir. Et nous accueillir parce qu'il est un Dieu d'amour. Et il aime lorsque nous lui faisons confiance. Il aime lorsque nous lui demandons son avis, lorsque nous voulons nouer une relation intime avec lui. Il aime ça. Et lorsque nous sommes accueillis par notre grand roi, nous ne pouvons que tomber vraiment face à terre, comme Josaphat, qui finalement est face à la gloire de Dieu, il est tombé. Et il a loué. Seigneur, merci parce que tu nous accueilles. Merci Seigneur parce que tu nous appelles gens de ta maison, éternel Dieu. Merci Seigneur pour tout l'amour que tu nous déverses. Merci Seigneur. Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce, pourtant je m'avance avec révérence. Qui au ciel est comparable à toi et qui sur la terre est ton égal. Tu es élevé bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Oui, je tombe face à terre en présence de ta gloire. Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce, pourtant je m'avance avec révérence. Qui au ciel est comparable à toi et qui sur la terre est ton égal. Tu es élevé bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Oui, je tombe face à terre en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Oui, je tombe face à terre en présence de ta gloire. Viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire, prends la place qui te revient. Ô roi de gloire, viens rayonner de ta gloire, viens rayonner de ta gloire, prends la place qui te revient, ô roi de gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Oui, je tombe face à terre en présence de ta gloire. Alléluia. Amen. Vous avez cette possibilité d'exprimer vos louanges à votre Seigneur.
Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, ô règne en moi.
Règne en moi.
Règne en moi. moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Oh, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi, maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur, viens régner, Seigneur.
Viens régner, Seigneur.
Et que ta volonté,
et que ta volonté
soit faite à jamais, soit faite à jamais.
Soit faite à jamais.
Maîtrise mon cœur.
Maîtrise mon cœur.
Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté, et que ta volonté soit faite à jamais, soit faite à jamais, soit faite à jamais. Il faut que tu règnes en moi. Règne en moi. Règne en moi. Roi puissant. Règne en moi. Oh, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Roi puissant. Règne en moi. Oh, règne en moi. Règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, oh, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais, soit faite à jamais,
soit faite à jamais.
Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur, viens régner, Seigneur,
viens régner, Seigneur. Et que ta volonté
soit faite à jamais, soit faite à jamais,
soit faite à jamais.
Oh, règne en moi,
règne en moi.
Oh, roi puissant,
roi puissant, règne en moi.
Règne en moi,
roi puissant, règne en moi.
Oui, Seigneur, il est vraiment important, Seigneur, que tu puisses régner en nous, Seigneur. Régner en nous pour que tu puisses encore faire ta volonté. Nous attendons à ta volonté, parce que nous savons que ta volonté est bonne et parfaite. C'est vrai, Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur, donc sur quel chemin tu désires que nous marchions, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans l'avenir, Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que tu es toujours à nos côtés. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous te louons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur ?
Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Nous savons que le sang de Christ nous lave et nous purifie de tout péché, de toutes nos maladies. Le corps brisé de notre Seigneur Jésus, son sang qui a versé nous, c'est pour nous aussi une victoire. Ça fait drôle de dire ça comme ça, n'est-ce pas ? Qu'une personne a dû payer le prix pour que nous puissions être libres. Mais c'est ce qui s'est passé. Et ce n'était pas n'importe quelle personne, parce que j'ai dit une personne. Mais ce n'était pas n'importe quelle personne. C'était Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Ce qui veut dire celui qui est né de Dieu. Et c'est pour ça que, au regard de tout ça, j'ai envie de dire merci Seigneur. C'est vrai que je ne méritais pas ça, mais toi, tu as dit que je le méritais. Donc tu es venu jusque sur terre. Tu as quitté la sainteté, ce ciel si parfait, pour moi. Pour moi qui souvent est chancelant, qui doute, qui parfois oublie de m'approcher de toi, qui parfois oublie de t'exprimer ma louange. Et toi, tu es là. Et à chaque fois qu'on se rapproche du Seigneur, ben, on se sent tellement bien. C'est pour ça qu'on, nous chrétiens, nous qui sommes là, nous savons que c'est la vérité. Hein. Parce qu'on sent réellement la présence du Seigneur. Moi, il m'est arrivé des fois de me réveiller et puis d'entendre Dieu me parler, me réconforter. Et ça, c'est tellement merveilleux. Quand Dieu est là dans chacun de vos soupirs, vous soupirez, vous entendez le Seigneur vous dire, mais ne sois pas inquiet. Ne doute pas, je suis là. David s'écriait que toutes mes sources, toutes nos sources sont en toi. Et c'est vraiment ce que je crois. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus. Plus de sa présence. Oui, Seigneur, ton sang nous a lavés. Ton sang nous a montré aussi ton cœur de Père. Par ton sang, tu nous as ouvert la voie aussi, Seigneur. La voie qui mène vers toi. Alors merci, Seigneur. C'est ton sang, Seigneur. Il parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense. Proclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang.
Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comme ami de Dieu. seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
Ton sang ensemble.
Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
La croix,
la croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang.
Comment
être pardonné? Comment recevoir la vie?
Seulement par le
seulement
sang.
Par le sang.
Seulement par le
seulement
sang.
Par
de Jésus.
Comment
être purifié, reçu comme ami de Dieu?
Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
Seulement par le sang,
seulement par le sang,
seulement par ton sang,
seulement par le sang
de Jésus. Seulement par le sang,
seulement par le sang,
tu nous as délivrés,
seulement par le sang,
tu nous as libérés,
Jésus.
Seulement par le sang.
Seulement par le sang,
seulement par le sang de Jésus.
Amen. Amen. Seulement par ton sang, Seigneur. Amen. Amen. Moi, j'ai envie d'acclamer le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette folle envie d'acclamer notre Seigneur. Est-ce que vous n'avez pas envie d'acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia.
De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom.
Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom, nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent nos chants. Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom.
Jésus fortifie.
Jésus fortifie nos cœurs.
Par ta grâce.
Par ta grâce et ta grandeur.
Car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom,
ton nom.
Comme une tour aux quatre vents,
ton nom
nous rend fort à chaque instant.
Ton nom,
que tous les peuples entonnent un chant. Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom,
comme une tour aux quatre vents.
Ton nom
nous rend fort à chaque instant.
Ton nom
un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent nos chants, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom.
Que ton nom, Jésus,
que ton nom,
j'aime chanter ton nom. Que ton nom, Jésus,
que ton nom,
j'aime louer ton nom. C'est merveilleux
que ton nom,
ton nom nous rend fort, nous donne la victoire.
Que
ton nom est précieux, ton nom est glorieux.
Que ton nom,
j'aime chanter ton nom, Jésus. Que ton nom, que ton nom, Jésus. Que ton nom, Jésus.
Que ton nom,
j'aime chanter ton nom. Que ton nom, que ton nom, que ton nom,
que ton nom,
que ton nom, que ton nom,
que ton nom,
que ton nom, Jésus. Seul nom qui nous sauve, seul nom qui nous guérit, seul nom qui nous donne la vie. Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus, pour ton amour et pour ta compassion. Merci, Seigneur, parce que chaque jour est un jour de fête, Seigneur, lorsque tu es avec nous. Même quand nous sommes en proie au désespoir, Seigneur, mais lorsque nous pensons à ton nom, Seigneur, nous sommes remplis de joie, nous sommes remplis de force. Alors merci Seigneur, parce que tu as le nom le plus excellent. Tu es Jésus, celui qui sauve. Tu es Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Alors que nous puissions être conscients, Seigneur, de ton nom. Conscients que ton nom non seulement a la capacité de nous sauver, mais ton nom nous rappelle aussi que tu es avec nous. C'est alors, Seigneur, que nous pourrons encore te louer, te louer, te louer, te louer sans cesse. Et t'adorer. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu nous aimes. Te prions encore pour, Seigneur, la suite de notre culte. Nous sommes déjà enrichis, Seigneur, par toi. Et merci pour ta parole aussi, Seigneur, qui va être donnée. Et nous savons, Seigneur, que ce que tu as mis en réserve et que tu as mis dans le cœur de notre serviteur, c'est pour encore nous permettre, Seigneur, encore d'être plus près de toi. Pour nous permettre encore de nous corriger, pour nous permettre, Seigneur, finalement d'avancer, Seigneur, avec toi, d'être beaucoup plus fort pour affronter, Seigneur, nos difficultés, pour arrêter de douter, mais pour avoir ce cœur rempli simplement de confiance, confiance en toi. Alors merci, Seigneur, pour ta parole, merci pour ton serviteur. Merci pour ton Église. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Bonjour bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, n'est-ce pas? Et je crois que le nom de Jésus. Prions Dieu. Te bénissons, notre Dieu. Ton nom est grand. Et ce nom fait des merveilles dans les vies. Ton nom a fait de nous ce que nous sommes. Nous qui étions perdus. Direction, la perdition éternelle, tu nous as rattrapés. Tu nous as déroutés. Et tu nous as mis sur la bonne voie. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur, notre Dieu, pour la résurrection qui est source de notre résurrection à nous. Et c'est vrai que nous étions morts, mais nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Et nous te bénissons. Amen. Je vous invite ce matin à méditer une fois de plus la parole de Dieu, que nous puissions être enrichis. Je commencerai par un psaume que j'ai partagé avec quelques-uns d'entre vous. Et ce psaume va nous permettre d'asseoir la sérénité, mais surtout la confiance que nous allons mettre dans la parole qui va suivre par la suite. Le psaume 119, que plusieurs connaissent bien, n'est-ce pas? C'est le chapitre le plus long de la Bible. C'est le plus long psaume. Et la particularité de ce psaume, c'est qu'il ne parle que de la parole de Dieu, du début à la fin, sous différentes facettes. Où cherche-t-on la vérité? Ça dépend des époques. Dans notre monde postmoderne, la vérité est dans le savoir humain, dans notre capacité à être des hommes rationnels, qui avons conquis l'espace et qui continuons du reste de l'explorer. Encore hier tard, le soir, je regardais une émission passionnante sur la 7. Un groupe de chercheurs qui se sont donné pour mission de pénétrer tous les mystères des requins. Incroyable. Des risques au risque de leur vie en plein banc de requins. Mais grâce à eux, aujourd'hui, on a une donnée impressionnante sur la vie des requins. Notre monde est en recherche de comprendre l'environnement qui l'entoure. Et donc, pour certains, la vérité est dans la nature, dans les lois qu'on découvre dans la nature. Par contre, la vraie question, c'est qui a posé ces lois? Et là, les avis divergent. Pour les juridiques de notre temps, ces lois ont été posées, on ne sait par qui. Ces principes sont là. Certains expliquent que ces principes ont évolué, sont arrivés à un moment donné, d'où la théorie de l'évolution. Mais par contre, comme je dis souvent, il faut savoir que même sur cette théorie, il n'y a pas l'unanimité. Où cherche-t-on la vérité? Dans notre tête, dans notre capacité à être rationnel, dans la nature qui nous entoure, tout sauf en Dieu. La vérité de Dieu est une vérité parcellaire. C'est une vérité religieuse. C'est une vérité éthique. C'est une vérité morale. Mais elle ne peut pas s'imposer à tout le monde comme la vérité. Et pourtant, le psaume 119 nous dit tout le contraire. Le psaume 119 commence en disant « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal. Ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors je n'aurai pas honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure, c'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu as tracées. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur, écoute-moi de vivre, accorde-moi du moins de vivre, j'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes ordres font tout mon plaisir, ils sont mes merveilleux conseillers. Et on pouvait continuer comme ça. Ce psaume, il parle de la parole sous toutes ses coutures. Qu'est-ce qu'il établit, ce psaume? Il établit que finalement, la vérité est dans la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité, avec un grand V. Peu importe ce que les siècles, ce que les époques, ce que les humains ont dit, elle est la vérité. Certains disent, oui, mais elle ne dit pas tout. Par exemple, elle ne parle pas des ordinateurs, des intelligences artificielles. Elle ne nous parle pas de toute l'évolution qu'il va avoir dans quoi? Dans 100 ans, dans 10 siècles, dans 20 siècles. Certes. Mais elle parle de ce qui fait la base de l'humanité. Que vaut tous les ordinateurs si les hommes ne s'aiment pas entre eux? Que vaut toute l'intelligence humaine si ce n'est que chaos et guerre? Les richesses des nations entraîne les nations dans les guerres et dans les conflits. Donc en vérité, la base la plus solide de la vérité, elle est là dans l'Écriture. Elle parle de tout, même si on a l'impression qu'elle ne parle pas de certains détails. Elle aborde tout ce qui concerne l'être humain dans sa relation à Dieu et dans son évolution jusqu'au retour du Seigneur. Ceci étant dit, étant donné quelle est la vérité, écoutons maintenant cette vérité que Jésus va nous dire. Une vérité qui parfois déconcerte, où on a l'impression que Jésus ne connaît pas nos réalités. Parce que dire ça, franchement, il aurait fallu qu'il soit comme nous. Et pourtant, il a été comme nous. Il était comme nous. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amasse rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Comme je le disais, dans un monde qui a traversé, qui n'était même pas sorti d'une crise économique, nous avons connu tout ce que nous avons connu ces deux dernières années. Et à la fin de l'année 2019, s'est ajoutée une autre crise qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la crise sanitaire. Une crise sans précédent dans toute l'humanité. Et donc, nous avons bien des raisons d'être inquiets pour notre avenir. L'avenir n'est plus rose, puisqu'on nous apprend que nous devions vivre avec cette pandémie pour un temps que nous n'arrivons pas encore à déterminer. Regardez ce matin, c'est pas comme ça que nous étions avant la pandémie. C'est pas comme ça que nous faisions l'église avant mars 2020. Et pourtant, nous avons changé d'habitude. Et ça peut faire peur. Ça nous inquiète. L'économie n'est pas au beau fixe, nous dit-on. Nos jeunes adultes qui rentrent sur le marché de l'emploi, on essaie de mettre des mesures pour qu'ils aient du travail. L'économie, dit-on, est en berne. Et nous n'avons pas à nous inquiéter. Et pourtant, Jésus, il dit cette parole dans un contexte où les Juifs auxquels il s'adresse ne sont pas dans un contexte apaisé. Quand Jésus vit son ministère dans cette période de l'histoire humaine, entre l'an 0 et l'an 33, les Juifs auxquels il s'adresse sont sous domination romaine. Ils n'ont pas de liberté. Ils sont un peuple en vassalité du grand empire romain. Ils ont envie de cette liberté. Et en Jésus, ils avaient vu quelqu'un qui était capable de les délivrer, de faire d'eux une nation libre, un peuple indépendant. Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. De quoi parle Jésus quand il parle des inquiétudes? Il faut bien comprendre cette parole. L'inquiétude est un sentiment humain. Nous avons le droit d'être inquiets. Est-ce que c'est de cette inquiétude que Jésus parle? Quand on lit bien le texte, il semble que non. Jésus parle de cette inquiétude qu'on appelle l'anxiété, être anxieux, c'est-à-dire être excessivement préoccupé d'une situation sur laquelle on n'a pas d'emprise. C'est une situation sur laquelle, quelles que soient les réflexions que tu fais chez toi, ça ne va pas changer demain. L'anxiété. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas juste un sentiment passager, c'est une situation qui nous fait douter, mais c'est un état d'esprit qui s'impose à nous, dans lequel nous vivons finalement. Nous sommes anxieux, nous sommes inquiets. Nous ne sommes pas sûrs de rien du tout. Et du coup, cela inhibe toute réflexion, toute confiance en Dieu. Il faut bien préciser que cette invitation de Jésus ne nous enlève pas notre capacité humaine à prévoir. Jésus ne dit pas « soyez pas prévoyants ». Ce n'est pas possible puisque, souvenez-vous, et que les proverbes parlent de la fourmi, n'est-ce pas? Il dit que cette fourmi, qu'est-ce qu'elle fait pendant l'été, pendant les beaux jours? Elle emmagasine des choses pour préparer son hivernage, n'est-ce pas? Et la question de la prudence, la question de la prévoyance, Jésus en parle tellement de fois. Donc il faut dissocier prévoir et être inquiet. L'inquiétude, je le rappelle, dont le texte nous parle ici, c'est cette anxiété, cette excessive préoccupation des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise. Jésus n'interdit pas de travailler. Jésus n'interdit pas d'avoir des plans d'épargne. Jésus n'interdit pas de planifier notre avenir. Non. Jésus n'interdit pas que nous puissions planifier l'avenir de nos enfants. Jésus n'interdit pas que devons les indices que la société nous donne, que nous prenons des précautions, des mesures pour prévoir le lendemain. Non. Jésus dit qu'au contraire, c'est sage de le faire. Par contre, il dit, si tu es omnibulé, si tu es pris dans cette tourmente et que ta vie tout entière est omnibulée par cette inquiétude du lendemain, c'est un manque de confiance en celui qui sait plus que toi l'avenir. Parce qu'à force d'être excessivement anxieux et inquiet, Comment est-ce que tu peux faire confiance en Dieu? Ça touche ta confiance en Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, regardez les oiseaux des cieux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais Dieu en prend soin, n'est-ce pas? Et pour rappeler encore ce documentaire d'hier, cette chaîne alimentaire naturelle que Dieu a mis dans le monde, c'est incroyable. Il y a une quantité de poissons qui est conduit par une loi naturelle qui suit le cycle de la lune et qui arrive chaque année au même endroit où ces requins aussi ont rendez-vous. Incroyable. Et les chercheurs, ils ont fait cette étude pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, à la même époque, à la même date, les mêmes bancs de poissons et les mêmes bancs de requins sont là à la même époque. Dieu a réglé la nature comme ça. C'est de ça qu'il parle quand il dit les oiseaux des cieux. Dieu a réglé la nature pour que les oiseaux des cieux, eux-mêmes qui ne sèment ni ne moissonnent, aient de quoi vivre. Même si c'est vrai que l'homme, étant ce qu'il est, détruit même l'habitacle des animaux. Et c'est vrai que quelques alertes qui sont lancées vaut la peine d'être entendues par rapport à la préservation de la nature. Vous savez que dans Genèse chapitre 1 et 2, ce que Dieu dit à Adam, il dit, je te confie la gestion de la terre. Donc, Dieu était un écolo avant les écolos. Dieu dit à Adam, c'est ta ressource, c'est celle-là qui va te faire vivre. Prends-en bien soin, puisque c'est d'elle que tu vas tirer ta subsistance. Je ne parle pas de cette écologie qui fait aujourd'hui débat politique. Nous ne sommes pas en politique. Je parle de la gestion, simplement, des ressources que Dieu nous donne. Dieu dit ici, le texte dit ici, Dieu fait en sorte que les ressources soient là dans la nature et que la nature peut en prendre possession. À plus forte, nous, les humains, les chrétiens, qui valons encore plus que les animaux dans le regard que Dieu a sur nous. Donc Dieu se soucie de nous. Dieu prend soin de nous. Nous valons plus. Et Dieu parle ici, pas simplement de l'humanité en général, mais il parle en particulier de ses disciples, de ceux qui font confiance en Dieu. Dieu prend soin de nous. C'est l'anxiété, cette excessive préoccupation du lendemain dont Jésus parle. Nous sommes invités en tant que chrétiens à faire confiance en Dieu. Il se trouve parfois des situations où tout baigne. Gloire à Dieu, parce que c'est un Dieu qui bénit. Et quand les choses vont bien, ben nous devons bénir Dieu. C'est le cours normal des choses. Si quelqu'un étudie, s'il fait une formation, en principe à la clé, il doit avoir un travail. C'est le cours normal des choses. Si un enfant étudie bien à l'école, il passe les niveaux les uns après les autres jusqu'à ce qu'il arrive au moment où il débouche sur le marché de l'emploi et il a un travail. Et selon le cycle de nous chrétiens, il y a aussi ce besoin sentimental où il rencontre quelqu'un dans sa vie, où il fonde un foyer, il prend soin de sa femme, de son époux, et si Dieu leur fait la grâce d'avoir des enfants, ils en prennent soin et ils préparent l'avenir de leurs enfants. C'est le cycle normal des choses. Si Dieu fait ça, disons, béni sois-tu Seigneur. Il le fait autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Sa loi naturelle fait que naturellement ces choses se passent bien en général pour tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas. Et encore plus quand Dieu donne l'intelligence à une société qui fait tout pour que tout le monde ait le minimum, c'est une grâce de Dieu. Sauf que cette société-là, comme l'anneau dit, oh, ça nous montre qu'on n'a pas besoin de Dieu parce que nous-mêmes, on est capable de prendre soin de nous. Regardez toutes les structures sociales qu'on a mises, regardez toute l'évolution qu'on a faite, regardez tous les progrès. A-t-on encore besoin de Dieu? Ai-je besoin de prier pour que j'ai un bus? Chaque 5 minutes, il y a un bus. Ai-je besoin de prier pour que le train soit à l'heure? En principe, le train, il est à l'heure. Donc, quand il est en retard d'une minute, ça râle pas possible sur les quais. C'est incroyable, cette société. Mais ce n'est pas des évidences, bien-aimés. Notre société a acquis que c'est des évidences. Et quand la pandémie comme celle-là nous frappe, on se rend bien compte que ce ne sont pas des évidences. Qu'à chaque jour suffit sa peine. Qu'à chaque époque suffit sa peine. Qu'à chaque période, qui de nous savait qu'à la fin de l'année 2019, début 2020, nous serions dans cette situation? Qui le savait? Oui, il y avait des lanceurs d'alerte, mais la dimension que ça a pris, dans un temps fulgurant et exponentiel, ça a déstabilisé toutes les structures. Et pourtant, nous sommes des sociétés civilisées, modernes, avec tout ce qu'on a pour prévoir à l'avenir, n'est-ce pas? Et là, bam, on ne peut plus prévoir. Il faut refaire les calculs. Bref, c'est Dieu en qui nous devons avoir confiance. Quand les choses vont bien, bénissons-le. Mais il se trouve que parfois les choses ne vont pas aussi bien que nous le voudrions. Il se trouve que parfois le déroulement du cours de notre vie ne se déroule pas comme nous l'aurions planifié, comme nous l'aurions voulu, comme les capacités que nous avons nous avaient laissé prévoir que nous serions à tel niveau. C'est de cela que Dieu parle. Quand ces choses arrivent, ne soyons pas inquiets à l'excès. Faisons-lui confiance. Parce que le drame de cette inquiétude, c'est qu'elle nous déconnecte tout doucement de la confiance en Dieu. Elle nous déconnecte tout doucement de continuer à grandir dans le Seigneur. Elle nous déconnecte tout doucement des valeurs que Dieu nous a donné d'acquérir. Elle nous déconnecte tout doucement de l'intimité qu'on a avec Dieu. C'est ça le danger de l'inquiétude. L'inquiétude à l'excès, l'anxiété, la trop grande préoccupation excessive de tout ce que je ne sais pas qui va m'arriver ne me donne pas d'avoir confiance en Dieu. Me donne en ce moment-là de réfléchir au plan B, plan X, plan Z, plan Y et d'aller dans tous les sens pour trouver la solution. Et c'est là que malheureusement, facilement, on peut prendre les mauvaises solutions. C'est là que malheureusement, on peut prendre des solutions qu'on peut regretter. Dieu ne nous invite pas à la passivité. Non, ce n'est pas un Dieu passif, c'est un Dieu qui est dans l'action. C'est pour ça qu'il dit, finalement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, il ne nous demande pas d'être inactifs. Il dit au contraire, si tu continues à honorer ton Dieu, si tu continues à marcher selon les valeurs de ton Dieu, si tu continues dans ton domaine professionnel à garder le cap avec les valeurs d'un chrétien, à faire confiance en Dieu, même quand tout semble bloqué, bouché, et que tu continues de te battre avec les valeurs que Dieu t'a données, Dieu prendra soin de la solution pour toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dieu prendra soin de la solution pour toi. Il te guidera, il te conduira, comme il le fait pour l'oiseau, comme il prend soin de cette fleur, la lys des champs. Le lendemain, aucun de nous n'a une emprise sur le lendemain. Notre société nous aide à prévoir le lendemain, c'est très bien. Et nous faisons des projets pour le lendemain, et c'est très bien. Mais nous savons qu'aucun projet n'a 0% de risque. Tout projet est un projet par essence avec un risque. Risque de réussite, risque de moins réussite, risque d'échec. Mais nous avons acté dans notre société moderne que tout projet doit réussir. Et doit réussir d'un premier coup. C'est ça qui est vrai. Et c'est là qu'est la gloire de Dieu. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi vrai que ça. Je vous ai, pendant 4 semaines, entretenu sur Dieu qui avait dit à Israël, je te conduirai à Canaan sur une terre prospère. Et pourtant, malgré toute la grâce que Dieu a déployée, vous avez vu toutes les péripéties que ce peuple a eues, de par sa propre faute à lui, pas par la faute de Dieu, alors que Dieu leur avait donné cette confiance qu'il les conduirait à bon port. N'est-ce pas? Et je me convainc que Dieu, il peut écrire avec une ligne droite, comme disait quelqu'un, et qui est rectiligne, mais il peut écrire avec une ligne droite qui est aussi coupe. C'est-à-dire que quelquefois avec Dieu, peu importe l'itinéraire, mais il te conduira du point A au point B qu'il t'a dit. Il te conduira là. Peut-être que tu as un itinéraire, toi, dans ta tête. C'est bien de l'avoir. Mais parfois, ton itinéraire n'est pas celui de Dieu. N'est pas celui de Dieu. Vous savez, ça nous arrive quelquefois. On croit connaître un chemin et puis on met le GPS. Et puis le GPS te donne un circuit. Tu te dis, oulala, c'est quoi ce circuit? Et puis tu t'engages dans le chemin que tu connais. Sauf que le GPS, s'il est actualisé, il connaît aussi là où il y a les bouchons. Et puis bim, tu tombes dans un bouchon. Tu dis, ah, je comprends pourquoi. C'est pour ça qu'il voulait que je passe là le GPS. C'est pour ça. Mais là, c'est trop tard, tu es dans le bouchon. Tu dois attendre. Il me semble qu'avec Dieu, quelquefois, c'est comme ça. On dit, mais Seigneur, attends. Le chemin, je le connais, c'est là. Qu'est-ce que tu fais? Et parfois, on dit, calme-toi, Seigneur, je vais te montrer moi le chemin. Et puis, on s'y engage, et puis là, on le prend en pleine face. Et on dit, oulala. Ou parfois, ce n'est pas de notre fait. Dieu laisse faire les circonstances, et c'est les circonstances qui sont parfois très difficiles. Très difficiles. Et là, on est inquiet. Parce que on évalue notre vie, on n'a pas de péché qui fait que Dieu nous aurait maudit. On n'a pas demandé à Dieu d'être comme Job, donc on n'a pas demandé une épreuve. Donc du coup, on dit, mais Seigneur, quand même. Et puis quand ça se passe dans un temps qu'on peut supporter, ça va encore. On revient louer Dieu. Ah, Dieu m'a éprouvé, mais il m'a en sorti. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand ça dure, on dit, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? Seigneur, montre-moi. L'inquiétude, elle excuse parfois, donc comprenez bien l'inquiétude, l'anxiété, la trop grande préoccupation, c'est celle qui nous fait rester dans les choses du monde. Et qui ne nous permettent pas de nous élever vers la confiance en Dieu. Et Jésus attire notre attention sur cette question. Il est important de voir la différence entre la prévoyance, comme je le disais tout à l'heure, et l'inquiétude. Jésus ne nous dit pas de ne pas être prévoyant, il ne nous dit pas de ne pas faire de projet. Il dit, si tu fais un projet, et si ça traite, ou s'il y a des obstacles, ne sois pas inquiet à l'excès. Que ton inquiétude naissante, tu la transformes en prière, en confiance en Dieu. Que tu lui demandes des forces pour tenir bon. Parce que si tu le fais avec les valeurs que Dieu te donne, garde ce cap. Il y a cette jeune fille qui a beaucoup, j'utilise un mot commun, qui a beaucoup galéré pour ses études. Et qui était en face d'un de ses professeurs de thèse qui aurait pu l'aider à, professeur de mémoire du moins, qui aurait pu l'aider à bien valider son mémoire parce que derrière il y avait un travail qui l'attendait. Sauf que le monsieur, il a traîné sur ce mémoire, mais la fille ne voyait pas les raisons. Au bout du bout, elle a compris qu'en fait, ce monsieur aurait souhaité avoir une aventure sentimentale avec elle. Alors que c'était un monsieur marié, et qu'elle était une chrétienne, et qu'elle aspirait un jour à voir son mari et vivre une vie heureuse. Et quand elle a compris ça, elle était toute triste. Si j'étais dans les groupes publics universitaires, elle est venue me voir. Devant ce genre de situation, tu n'as pas de réponse. Elle était tellement désemparée. Elle a dit, si le Seigneur ne fait rien pour me sortir de là, Serge, je ne suis pas sûr que je vais résister. Qu'est-ce que tu peux dire à une jeune femme comme ça, qui s'est gardée pure pour Dieu et qui avance dans ses études et qui trouve un obstacle comme ça et un monsieur de ce type-là devant elle? J'ai dit, ma soeur, on va prier, tu sais. Je n'ai pas d'autre solution pour toi que de dire, résiste, tiens bon, prions Dieu. Elle a formulé une prière qui était à l'époque très enfantine. Elle a dit, c'est parce qu'il me voit comme une jeune fille bienfaite qu'il me désire. Je prie que Dieu, à chaque fois qu'il me voie comme un garçon. J'ai dit, oulala, j'ai dit, oulala. J'ai dit, oulala. Mais ça l'embêtait bien, cette situation-là. Et puis elle a résisté. Ça n'a pas été facile. Mais au bout du bout, l'académie s'y est mêlée. Et l'académie lui a donné raison et a forcé le professeur à faire son travail. Aujourd'hui, cette jeune fille vit aux États-Unis. Elle est épanouie. Elle a gardé la foi. Mais ce n'était pas évident à ce moment-là de résister. Et des histoires comme ça, je pense que vous qui avez de l'expérience, vous en avez pas mal. Où il y a eu des choses, mais il fallait rester fidèle à Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus tout. Amen. Ce matin, voilà l'exhortation que Dieu nous donne. Que nous puissions garder nos regards sur Jésus. Que sa parole, qui nous donne des valeurs intrinsèques et qui nous donne d'être parfois différents dans des situations particulières, alors que tout le monde fait ça, et ça marche, et nous on ne veut pas faire ça, et donc peut-être ça ne va pas marcher du coup, que nous ne soyons pas inquiets à l'excès, que ce... que cette ambiguïté, que cette situation, cette difficulté, cet obstacle, parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétienne, et que tu ne peux pas toujours faire comme les autres, que ce ne soit pas un piège pour tomber dans l'anxiété, dans l'inquiétude et de perdre confiance que Dieu est capable de te conduire à bon port. C'est ce que Jésus nous dit. C'est pour ça que je lis avec vous le psaume 119. Ta loi est la vérité. Ce que Dieu dit s'accomplit. C'est lui qui dit, ne soyez pas inquiets, je prends soin de vous. Il n'a pas dit comment, mais il dit, je vais le faire. Il a dit à Israël, je te conduis à Cana. Il n'a pas dit que tout serait nickel. Il dit, ce qui est sûr, je te conduirai sur une terre où tu ne seras plus esclave, où tes enfants auront un avenir, où toi tu auras un avenir. Comment ça va se faire? Ça va se faire avec les lois humaines. Donc tu vas traverser le désert, mais je serai avec toi. Tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des adversités, mais je serai avec toi. Des fois, tout va couler comme de source, ça sera ma bénédiction aussi. Mais à chaque étape, ma grâce te suffit. C'est ça la fin de ce texte. À chaque jour suffit sa peine. À chaque étape, la grâce de Dieu sera suffisante. Et je vous parle par expérience. À des périodes de la vie d'un homme où c'est compliqué. Où c'est compliqué. Où les solutions ne sont pas évidentes. Où tu n'as même pas de solution. Où toutes les portes sont fermées. Mais c'est là que ta foi te dit, la porte du ciel, elle est ouverte. Elle reste grande ouverte. Et Dieu dit, fais-moi confiance. Et tu as envie de dire oui, Seigneur. Donc c'est demain matin que tu vas le faire. Et tu n'entends pas de réponse. Et tu te lèves le lendemain, bah, tu es encore dans la même galère. Tu te dis, ok, bon, il faut attendre. Mais c'est ta prière. C'est ta confiance à ton Dieu. C'est la méditation de la parole. C'est ton service dans l'église de Dieu. C'est cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Reste attaché à ton Dieu. Garde ses valeurs. Prie ton Dieu, médite sa parole, engage-toi pour lui dans son église. Continue d'être actif dans tes études, continue d'être actif dans ton milieu professionnel, continue de chercher même si tu n'as pas encore d'emploi. Lui, à chaque circonstance, sa grâce sera suffisante. Amen. 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 Terminons avec la lecture de Lamentations. 3, 21 à 23. Lamentation, vous savez déjà, le titre dit beaucoup. Hein. Voilà. Donc c'est un peuple qui se lamente et c'est le prophète Jérémie qui se lamente avec le peuple parce que le peuple en ce moment-là est dans une situation trop difficile. Où Jérémie a dit plusieurs fois, mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous délivrer? Jusqu'à quand tu vas nous sortir de cette situation? Oui, on sait qu'on s'est mis dans cette galère, mais tu es le Dieu qui est bon aussi. Jusqu'à quand? Et puis, Et puis Jérémie formule cette conviction que je voudrais nous communiquer ce matin. Et si tout va bien, que cette conviction soit encore un plus pour toi. Si les choses vont très mal, que cette conviction te soit comme un ancre, comme une voile qui te pousse et qui te conduise. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Tes compassions ne sont pas épuisées. Ton amour n'est pas à son terme. Chaque matin, elle se renouvelle. Fais confiance à ton Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et il prendra soin de chaque situation, de chaque étape de ta vie. Prions. Te bénissons. Nous te louons. Seigneur, je te bénis pour toutes les situations où tout va bien. Parce que c'est ta bénédiction aussi. Tu bénis tes enfants et merci pour les familles, pour nos bien-aimés frères et sœurs, où les choses vont bien. Et nous voulons dire Alléluia. Et nous voulons te bénir pour ces bien-aimés-là. Parce que notre amour fait que nous sommes heureux pour ceux dont la bénédiction est là, est présente. Tu dis aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous voulons te porter ce matin, peut-être parmi nous, nos frères, nos sœurs, nos familles, qui, elles, traversent des moments compliqués, difficiles, des situations étriquées, sans solution concrète, depuis plusieurs mois, voire peut-être depuis plusieurs années. Seigneur, tu dis de ne pas nous inquiéter à l'excès, de te faire confiance. Regarde, les familles dont nous parlons, c'est celles qui sont engagées pour toi, qui gardent les valeurs chrétiennes, qui marchent avec toi, qui te servent. Fais grâce. Montre-leur que ta parole est la vérité. Tu l'as dit dans le psaume 119, ta parole est la vérité. Celui qui se place sa confiance en toi n'est jamais déçu. Montre, Seigneur. C'est ces miracles que nous voulons voir. Les miracles où toi, tu es capable, quelle que soit la situation, d'apporter la solution, ta solution, notre Dieu. Te bénissons et nous te louons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.